Dégenré, l'émission pour déranger.
Une émission féministe, les 2e et 4e mercredis du mois, sur Radio Kaleidoscope 97 FM, de 18h30 à 20h. Bonsoir, donc vous êtes bien sur Dégenré, donc on fait notre rentrée pour la 5e année, on compte même plus. Voilà, en tout cas on est toujours là, toujours féministe aussi, tout ça. Alors donc ce soir en fait, on vous a concocté plutôt une émission avec plein d'éléments divers et variés, donc notamment pas mal d'informations, puisque même dans l'été, il y a eu, et au mois de septembre, il y a eu pas mal d'événements sur les questions de genre, tout ça. Donc on va un petit peu essayer de vous retranscrire tout ça.
Voilà, avec différentes chroniques, tout ça. Et du coup, on va commencer par la Ladyfest à Toulouse, où Hélène et moi, qui sommes là pour l'émission, avons toutes les deux allé. Oui. Donc vous avez nos retours.
Et c'était fin septembre, en fait, la dernière semaine de septembre, hein, à Toulouse.
Ouais, c'est ça. Et les Ladyfest, c'est des festivals féministes qui existent depuis, je crois, 2000, un truc comme ça.
Oui, il me semble que le premier avait eu lieu en Angleterre en 2000.
Ouais, et après, il y en a eu un peu partout. Moi, je sais que j'avais été... Enfin, il y en a eu un peu partout quand même, plutôt, en Europe et en Amérique du Nord. Ouais, donc pas vraiment partout. en fait, je ne sais pas trop s'il y en a eu ailleurs. Ouais. Je ne crois pas.
Moi non plus.
Et du coup, l'idée, c'est un peu de promouvoir des créations, on va dire, artistiques diverses de femmes à la base. Donc, c'était pas mal axé sur la musique dans les débuts, mais aussi après d'autres créations et des ateliers, des échanges de savoirs dans une optique féministe. Donc, où en général, il y a pas mal de groupes soit constitués par des femmes ou mettent en avant des paroles féministes ou des paroles de Gwyn, etc. Mm-hmm. Donc voilà un peu sur les questions de genre. Et cette année, à Toulouse, il y avait...
Ça a duré presque une semaine. Hein.
Ouais.
Donc c'était vraiment riche comme programme, quoi.
Ouais, puis avec des trucs assez divers, quoi, parce qu'il y avait 3 soirées concerts, mais il y avait pas mal d'ateliers en journée. Moi, je sais que j'ai été... par exemple, un atelier répondre aux insultes, à tout, les insultes diverses qu'on peut se prendre, que ce soit dans la rue ou au quotidien, par les hommes, entre autres. Enfin, c'était surtout axé là-dessus. Et du coup, c'était assez chouette et marrant, quoi.
Et pratique.
C'est ça.
Des choses qui servent un peu tous les jours.
Et sinon, il y avait des ateliers d'autodéfense, un atelier aussi de langue des signes française qui était vraiment chouette.
Il y a eu de la sérigraphie aussi, du théâtre de rue, du sport.
Ouais, pas mal de trucs. Ah oui, un atelier de réduction des risques. Non, en fait, c'est terrible, c'est moi qui ai fait l'atelier, j'arrive plus à le présenter.
C'est ça, parce que c'est dans la subtilité, la complexité des choses et des pratiques des personnes, quoi.
Non, on va dire un atelier sur la sexualité lesbienne. Et voilà, entre autres, toi, Hélène, qui a fait aussi un atelier théâtre, des monologues du vagin.
Nous, on avait proposé un atelier où l'idée, en fait, c'était de servir du support théâtral pour amener, en fait, des discussions entre femmes sur les questions de rapport au corps, de sexualité. Et voilà, en gros, on avait investi un appartement qui était un espace, pour nous, un espace un peu intime. Et l'idée, c'était d'utiliser un peu les différents espaces pour faire que ce soit des jeux, des scènes théâtrales, des discussions. Et que, en fait, les personnes déambulent dans l'appartement et puissent choisir un peu ce à quoi elles voulaient participer. Donc... Donc dans ce temps-là, il y a aussi une trentaine de femmes qui ont participé. Donc je crois que sur le Ladyfest de Toulouse, je pense qu'il y a eu, enfin moi je dirais, je sais pas, entre des soirées où des fois il y avait pas loin d'une centaine de personnes et tout. Je pense que ça a touché quand même pas mal de monde, quoi.
Ouais, puis avec du coup pas mal de personnes venues aussi d'ailleurs, quoi. D'Allemagne, d'Espagne, de Suisse, enfin plutôt du coup de mon pays proche. Mais où du coup ça crée aussi, je trouve, une ambiance et des échanges, des rencontres qui étaient vraiment classe.
Ouais, donc on vous conseille de surveiller un peu, je crois qu'il y a des sites internet sur les Ladyfest, donc il y en a de programmés régulièrement. Là il n'y a pas de prochaine date d'annoncer, mais à mon avis ça ne saurait tarder. Donc voilà, donc vous pouvez taper aussi sur internet, faire des recherches et vous aurez sans doute des idées de dates. Donc pour commencer, je voulais vous lire un petit texte en fait, extrait justement de notre travail de spectacle-discussion autour des monologues du vagin. Donc c'est un texte qui s'appelle « Mon corps, mon a ». Mon corps ne ressemble pas à ceux que l'on voit dans les magazines. Je suis pas mince, je suis pas épilée, j'ai les cheveux pas très longs. Pourtant j'aime mon corps. Longtemps je l'ai pas aimé, pas regardé, pas touché. Parfois lourdement aiguillée par ma mère, j'ai tenté, ou plutôt elle a tenté de me faire perdre du poids. À la maison, pas de gâteau, pas de chocolat. Ou alors soigneusement répertorié, compté, rationné. Je suis en primaire, j'ai 10 balles d'argent de poche par semaine. En me faisant pote avec la boulangère, les 10 balles suffisent à me fournir en bon bec et gâteau pour la semaine. Ouf. Certains autres enfants me disent que je suis grosse. Ils ont l'air de penser que c'est un problème. Ma mère aussi. À la télé, Je regarde une émission où ils parlent des mauvaises graisses. Le beurre, la crème, trop de fromage. Pourquoi mauvaise ? Moi, j'adore les pâtes. Avec beaucoup de beurre, beaucoup de fromage râpé. Et je mange du pain avec. Ça aussi, ça a l'air d'être un problème. Aujourd'hui, quand je me délecte des pâtes dégoulinantes de beurre et de fromage, j'ai toujours une pensée revancharde envers ma mère, les magazines et tous les gardiens des normes relatives au corps des femmes. Avec mon corps, j'ai parfois pensé que rien n'allait. Ma chère mère me disait souvent que j'étais habillée comme l'as de pique. Mais je trouvais plutôt que je ressemblais, au niveau du look au moins, à plein d'autres Jones de mon âge et de mon milieu. Je portais des jeans et sweats larges, baskets, casquettes, un manque flagrant de féminité pour certaines, un style Jones décontracté de la banlieue pour d'autres, mais pour toutes, une trop grande part de masculinité. Un garçon manqué. Pour moi, mes premiers pas vers la butch attitude. Puis, j'ai attentivement regardé un jeu de cartes. Et franchement, le look de l'as de pique n'a rien de commun avec celui d'une butch. Un jour, j'ai genre 12 ou 13 ans, et je vais chez le médecin pour une connerie de vaccin. Auscultation classique, je soulève mon t-shirt pour qu'il écoute mon cœur. Et là, ils se mettent à me parler de mes seins, de leur maintien, et du coup de l'intérêt du soutif. J'hallucine. Moi qui choisissais toutes mes fringues sur le critère principal du confort, autant dire que les soutifs ne pouvaient pas faire partie de ma garde-pantalon. Et oui, les robes, c'est pas trop mon truc. 6 mois plus tard, je retourne chez ce médecin pour une autre connerie. Là, il constate, atterré, que je ne porte toujours pas de soutien-gorge. Et il m'annonce froidement que si je n'agis pas rapidement, mes seins vont tomber. Je prends quelques jours pour m'en remettre. J'essaie plusieurs soutifs. Et déjà, je commence à m'habituer à l'idée que mes seins vont tomber. C'est pas vraiment que ça me réjouisse, mais ça me paraît toujours moins chiant que de porter cette espèce de camisole à seins en permanence. Ma mère, toujours bonne conseillère, avait choisi pour moi ceux qui ont des armatures. Un peu plus tard, elle m'a expliqué que le bon plan avec les armatures, c'est que ça remonte les seins, que selon elle, ça les met en valeur, et qu'avec un décolleté, je pourrais même être jolie. Moi, jolie. Très intriguée, j'ai essayé seule dans ma chambre. C'était un peu bizarre, mais c'est vrai que je me trouvais un peu jolie quand même. Un jour où je voulais être jolie, comme ils disent, j'ai mis un décolleté avec une camisole à seins à armature et je suis sortie. Les regards m'ont semblé lourds, dérangeants, intrusifs et agressifs. C'était les regards des hommes, bien sûr. Retour immédiat au sweat large et à la presque tranquillité. Un autre truc qui allait pas avec mon corps, c'est que j'avais compris vers 5 ou 6 ans, en me caressant le sexe dans le canapé, devant la télé, que ça aussi c'était très mal. Lorsque ma mère m'a dit, le visage livide, d'arrêter ça tout de suite. Après, j'ai essayé de me cacher sous une couverture pour le faire,
Mais mon frère, mon père ou ma mère passaient toujours par là pour me rappeler sèchement d'arrêter ça. J'ai continué de me caresser le sexe, mais uniquement la nuit dans mon lit, la lumière éteinte, les yeux fermés, en me disant que je faisais sûrement encore une connerie. Vers 15 ans, j'ai eu envie que d'autres touchent mon corps. Des garçons l'ont fait. Souvent, ça ne provoquait aucune sensation. Parfois, c'était désagréable. Et rarement, ça m'a donné du plaisir. Globalement, c'était plutôt décevant. Et encore une fois, j'ai pensé qu'il y avait un problème avec mon corps. J'entérine alors mon look de garçon manqué de la banlieue. C'est confortable et ça éloigne les regards et l'intérêt des hommes sur mon corps. Un soir, mon père, à son grand désespoir, je pense, m'a fait réaliser un truc primordial dans ma vie. Au moment où je vais remettre du beurre pour la troisième fois dans mes pattes, ou quelque chose comme ça, et qu'il remarque également que mon caleçon dépasse délicatement de mon jean large, il me lance. C'est pas comme ça que tu vas plaire aux garçons. J'ai rien dit, mais j'étais vexée sur le coup. Après, j'y ai repensé, et je me suis dit que de toute façon, les quelques expériences que j'ai eues avec les garçons ne me donnaient aucune envie de leur plaire. Là-dessus, j'ai été rassurée. Par contre, j'avais envie d'avoir du plaisir avec mon corps et avec d'autres personnes. L'hétéronormalité faisant bien son boulot, il m'a fallu encore un peu de temps avant de m'autoriser à avoir du désir pour d'autres femmes. Là, nouveau problème. Que mon corps ne plaise pas aux garçons faisait de mon corps mon allié et une arme de défense. Par contre, s'il ne plaisait pas aux femmes non plus, c'est la panique. Mon père avait bien précisé que c'était aux garçons que je ne plairais pas comme ça. Je me raccroche à cette idée. Je me rends vite compte que je ne plais pas à toutes les femmes non plus. J'ai 18 ou 20 ans. Je me donne du plaisir seule avec mon corps. C'est bon. J'aime me toucher. Mon corps est mon amante. Envie d'avoir du plaisir avec des femmes. Les toucher. Je veux pas qu'elles touchent mes seins. Étonnamment, je les trouve trop gros et moches parce qu'ils tombent. Je cherche à rentrer dans le milieu lesbien. C'est compliqué. J'hésite, je bafouille, je me sens mal à l'aise. Je lis encore des bouquins de lesbiennes. Je fais des recherches sur les théories féministes. Elles aussi pensent que le regard des hommes peut être un problème. Ça me rassure, je croyais être la seule parano. Quand je dis autour de moi que j'aimerais rencontrer des féministes, souvent on rigole. On me dit que ça va, il faut que je me calme, que quand même la place des femmes a bien changé, et que j'ai pas trop à me plaindre en tant que blanche vivant en France. Je me décide alors à essayer de rencontrer des groupes féministes sans en parler aux potes du moment. Là, c'est la classe. Plusieurs trucs que je pense en secret depuis un bout de temps, elles le pensent aussi. Elles ne trouvent pas que les poils sont laids et qu'on doive absolument leur faire une guerre permanente. Elles pensent aussi qu'on ne doit pas forcément porter de décolleté pour être jolie. Encore plus attrayant, elles pensent qu'on peut être un garçon manqué et être jolie. Lorsque j'explique que je trouve ça plus sécurisant dans la rue d'être plus grosse que la moyenne et d'avoir des fringues larges, elles ne lèvent pas les yeux au ciel, elles comprennent. Lorsque je parle de masturbation, je vois des regards, des sourires complices. Elles pensent que c'est normal. J'ai même pu dire que je suis lesbienne sans que ça déclenche des fous rires ou un blanc d'un quart d'heure dans la discussion. J'ai eu très envie qu'elles deviennent des amies, et certaines le sont devenues. On a parlé ensemble des jours, des nuits, des semaines. On a fait des réus, des collages, des soirées, du sexe. J'ai continué de me masturber sans plus. Parfois, je ne mets pas des fringues larges. Je me regarde dans la glace, c'est pas désagréable. Deux ou trois fois, j'ai mis un décolleté pour aller à des soirées entre femmes. J'ai remarqué que ça plaisait à certaines d'entre elles. J'ai même commencé à trouver sexy mes poils entre le pubis et le nombril. Mon corps devient une arme de séduction envers les femmes, en même temps qu'il est une arme de défense envers les hommes. Mon corps est donc mon allié. Les poils, les bourrelets sont de moins en moins un problème. Je fais du sexe avec des femmes. Certaines me disent que mon corps est confortable, joli et même sexy. Je rougis. J'aime de plus en plus mon corps. J'ai de plus en plus de plaisir avec lui. Jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, je trouvais mes seins encombrants, trop gros et plutôt moches. Longtemps, j'ai voulu faire en sorte de les réduire. Mes questionnements autour du corps, du plaisir et de la sexualité m'ont amené à m'intéresser aux pratiques SM. Entre autres découvertes, il y a les jeux avec les seins. J'ai parfois pensé qu'il y a une connexion directe entre mes tétons et mon clito. Je me suis mise à les trouver beaucoup moins encombrants. Je trouve ça agréable que d'autres les caressent et jouent avec. Maintenant, j'apprécie de jouer seule avec aussi. Mon corps est mon amante. Aujourd'hui, j'ai 28 ans et je suis plutôt bien avec mon corps. exception faite de ces poils qui poussent sous mon menton et de cette moustache que j'épile régulièrement. Tous les autres poils, je me suis fait pote avec, mais ceux-là, je bloque. Heureusement, maintenant, je suis entourée de potes féministes. Je vais continuer de lire et de parler avec elles des jours et des nuits. Et j'espère bien qu'un jour, je serai pote aussi avec ces poils-là. Voilà, donc c'est un texte dont l'auteur dit « Parce qu'on écrit toujours de là où on en est, je suis plutôt une grosse gouine, blanche, anarcha-féministe, pro-sexe, à tendance butch sensible, issue du milieu prol. Je suis aussi végétarienne, drôle, timide et bordélique, mais peut-être que ça c'est une autre histoire, bien que. » Voilà donc quelques infos en vrac sur le Ladyfest, en vous espérant que ça a pu vous donner envie d'y aller. Talk about it. Everything's so complicated. I can't even smile the right way around. You're a faker, you're a faker. You're twisted in the head. Just a little bit gone, just a little bit over. Sorry now, I can do whatever I want. You can take me any way you like. 'Cause you're a dirty mess, don't you even
Bonsoir, donc vous êtes toujours sur Dégenré, donc pour notre émission de rentrée, fou. Et là, on voulait donc, après vous avoir parlé de la Ladyfest, enchaîner avec quelques infos sur des événements divers qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. Et le groupe qu'on vient d'écouter est justement passé au Ladyfest. C'était Hooker, c'est un groupe qui vient d'Angleterre et... Et voilà, qui est assez chouette aussi. Je pense qu'en faisant des recherches, peut-être vous pouvez trouver aussi d'autres morceaux, si ça vous dit.
Alors, une première info dont on a même entendu parler dans les grands médias, parce que c'était quand même un événement. Il y a eu l'inauguration le 3 septembre d'un parvis Jean-Paul II à Paris. Donc, bon, c'est quand même assez catastrophique, il faut bien le dire. Donc, il y a eu des larges mouvements de protestation qui ont été assez sévèrement réprimés. On l'a moins su. Donc, il y a les Panthères Roses, qui est un collectif parisien. Toi, tu connais peut-être un peu les Panthères Roses, Amélia ?
Oui, c'est un collectif qui se présente, je pense, comme un collectif transpédéguine, antisexiste, enfin qui lutte contre voilà toutes les discriminations et qui se revendique avant tout transpédéguine féministe.
D'accord. Et du coup, donc ce collectif a adressé une lettre ouverte à Bertrand Delanoë, qui se qualifie lui-même maire de tous les Parisiens et de toutes les convictions. Donc voici ce communiqué.
Lettre ouverte à Bertrand Delanoë.
Hop. Voilà, donc c'est ça, c'est, tu commences juste après, ça je viens de le dire.
C'était juste pour montrer que je t'avais pas écouté.
Le début du communiqué.
Nous, Gwyn, PD, trans, féministes, mais aussi parisiens, parisiennes, qui avons assisté à l'inauguration du parvis Jean-Paul II, nous avons protesté et continuerons de protester contre la décision de votre mairie d'honorer un dignitaire religieux qui s'est illustré pendant des années par une propagande contre l'IVG, contre le droit des femmes, contre l'usage du préservatif, contre le respect des homosexuels et des transsexuels.
Si nous avons choisi d'interrompre votre discours en détournant votre propre campagne de lutte contre le sida en scandant « Paris protège la trans, lesbo-homophobie, le sexisme, le sida, le Vatican », c'est parce que nous sommes en colère contre le vote de votre conseil municipal. Celui-ci s'est en effet précipité pour satisfaire un certain électorat en balayant d'un revers de main les 5 années d'attente généralement observées entre le décès d'une personnalité et l'attribution de son nom à un lieu public. Votre alliance avec l'UMP à cette occasion est révélatrice de votre optimisme électoraliste.
Pendant que toute la journée nous avons tenté d'exercer pacifiquement notre liberté d'expression, le soir même, vous ne vous priviez pas dans les médias de vous attaquer aux militantes en les qualifiant d'intégristes. Nous qui aimons bien nous exprimer librement dans l'espace public, regrettons que la mairie de Paris, non contente d'offrir gracieusement l'espace public aux catholiques les plus réactionnaires, il est étonnant que ce soit Jean-Paul II qui ait eu les honneurs alors qu'il était contesté à l'intérieur même de son clergé par les progressistes, et cautionné l'interpellation par les forces de l'ordre d'une 100aine de personnes au mépris de la liberté d'expression et celle de circuler. Selon un protocole qui faisait une large part à la discrimination, des personnes ont été interpellées pour avoir l'air un peu trop homosexuelles ou pas assez catholiques. Les personnes arrêtées parce qu'elles avaient juste exprimé un désaccord ou parce qu'elles portaient un tract ou un autocollant indiquant une appartenance à une association féministe ont été systématiquement fouillées, arrêtées, molestées, parquées. Des journalistes ont été malmenés et certaines se sont même vues confisquer la cassette de leur caméra.
Nous refusons d'être qualifiés de sectaires. Quand vous honorez un chef religieux catholique, surtout dans un pays où l'angoisse du communautarisme diabolise toute notion d'identité de genre et sexuelle, religieuse et culturelle. Vous avez déclaré que la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, à laquelle vous êtes profondément attaché, n'implique en rien l'ignorance réciproque. Nous prenons acte de ce du fait que vous n'ignorez pas la foi catholique et lui offrez une des plus prestigieuses places de la capitale. Mais qu'a donc fait l'Église catholique pour reconnaître la situation des femmes dominées et exploitées par un sexisme institutionnalisé ? Qu'a fait l'Église pour arrêter d'ignorer les violences commises envers les homosexuels et les transsexuels ?
Nous sommes étonnés de vos louanges concernant, entre guillemets, sa clairvoyance active, érigée à la rempart contre toutes les dérives intégristes. Fermez les guillemets. Alors que son soutien à des régimes d'extrême droite d'Amérique latine, tels que celle de Pinochet, n'est pas à démontrer, ou que l'Opus Dei a prospéré sous son pontificat. Mais finalement, nous tenons à vous remercier. Oui, vous admettez tout de même que cet hommage a pu heurter certaines sensibilités. Toutes les femmes qu'on culpabilise chaque jour dans leur choix d'avorter vous remercient qu'on leur dénie tout simplement le droit à disposer de leur corps. Les homosexuels et les transsexuels qui sont agressés dans le monde entier vous remercient. Quand leurs droits fondamentaux sont violés à chaque fois que Jean-Paul II a tenu ses propos d'incitation à la haine.
À propos de la légalisation du mariage des couples homosexuels, il déclare ainsi « On doit se poser la question de savoir s'il ne s'agit pas d'une nouvelle idéologie du mal, peut-être plus insidieuse et plus occulte que le nazisme. » Donc, c'est dans un livre de 2005. Les 25 millions de morts du sida vous en sont reconnaissants. Quand le continent africain est en train de mourir avec 40 millions de personnes infectées par le virus, cette sentinelle majeure des temps modernes n'hésite pas, en 1988, à déclarer, entre guillemets, qu'aucune considération personnelle ou sociale n'autorise l'emploi de contraceptifs.
Parce que, comme chacun sait, la chasteté est le seul moyen pour mettre fin à la plaie tragique du sida. C'est ce qu'il a déclaré en visite en 93 en Ouganda.
Nous devrions peut-être nous résigner à assister à l'influence puissante de l'Église catholique qui a du mal à lâcher ses préceptes d'un autre âge. Mais ce que nous refusons et que nous refuserons toujours, c'est la logique dangereuse dont fait preuve aujourd'hui la mairie de Paris, qui consiste à collaborer à une idéologie homophobe, sexiste et profondément réactionnaire en accueillant le religieux dans l'espace public et ainsi à le laisser peser dans le débat politique. On est en droit d'attendre qu'un homme de gauche ne privilégie la bonne entente entre les religions au détriment des droits des femmes, des gouines, des trans, des PD.
Monsieur le maire, vous pensez sûrement que nous ne sommes pas des sentinelles de la paix, mais nous sommes vigilantes et vigilants, nous sommes convaincus que Jean-Paul II n'a pas sa place dans la trame de notre cité, les Panthères Roses. Donc voilà, donc faites gaffe quand même à ce que dans vos villes, nos villes, il n'y ait pas des nouvelles places et autres rues Jean-Paul II.
Voilà, et en fait on enchaîne avec une autre info et on pourrait dire que c'est la suite, les méfaits du Parti Socialiste. Puisque cette fois-ci, il s'agit de Lyon et du coup de la politique du maire Collomb, donc qui est au Parti Socialiste, par rapport à d'augmenter la répression pour les travailleuses du sexe. Donc une tâche à laquelle il s'attelle depuis longtemps.
Depuis longtemps, hein, quand même, j'ai l'impression.
Vu qu'il avait lancé dès 2002 des arrêtés anti-prostitution pour Lyon, donc même avant en fait que la loi sur le racolage passif soit déposé par Sarkozy. Donc lui, Collomb, il a plutôt anticipé les choses et la répression. Donc là, c'est un communiqué qui nous vient de Kabiria, donc, dont on vous a déjà parlé dans d'autres émissions, qui est une association de travail et de soutien avec les personnes travailleuses du sexe. Et donc là, qui dénonce la répression pour chasser les prostituées du quartier Perrache. Donc ce qui est quand même assez fou, c'est qu'elles avaient déjà été entassées dans ce quartier suite à un nettoyage, donc à l'occasion de la Biennale de danse contemporaine de Lyon, où donc fallait faire place propre. Donc il y avait eu aussi à nouveau une chasse
de flics et tout
etc. Quoi. Et donc là, le nouveau truc de Collomb, c'est maintenant de les chasser de Perrache. Et avec un discours complètement électoraliste, en fait, qui joue sur tout le truc de parallèle entre la prostitution, en gros, et l'insécurité, quand même. Mmh. Et donc qui parle de future propreté du site. Donc voilà, la propreté, c'est se débarrasser des travailleuses du sexe. Et évidemment qui se sert dans un truc bien électoraliste, soi-disant des plaintes des riverains, etc., et qui tient à les rassurer. Et donc il en arrive quand même à déplorer que la loi sur le racolage passif n'est pas assez appliquée, donc à encourager la police à encore plus de répression. Et alors qu'on sait très bien que voilà, cette loi elle a fait qu'aggraver le sort des personnes prostituées avec de plus en plus de violences, qu'elles soient symboliques, physiques, policières, institutionnelles.
Alors qu'elle était censée lutter contre le proxénétisme quoi, à la base.
Voilà, et qu'à Perrache, en fait, elles avaient déjà donc été rejetées vers un lieu hyper éloigné des regards, où il y a peu de passants, etc. Donc où en fait les violences peuvent se passer encore. Enfin, il y a vraiment une incitation à la violence parce que justement c'est complètement à l'écart de tout quoi. Donc voilà, je pense qu'on pourra vous en dire plus peut-être sur des suites par rapport à cette action et cet appel dans notre prochaine émission.
Oui, s'il y a des mobilisations et tout ça, parce que c'est voilà, il y a vraiment urgence pour elle quoi.
Voilà, parce que donc la prochaine émission reviendra sur un parallèle sur la loi sur le racolage passif et la loi Stasi qui interdit le port du voir à l'école et faire un peu...
parallèle entre coup, plein de formes de répression et de
voilà,
sexisme.
Qui les deux s'attaquent à des femmes.
Voilà. Donc, on va se faire une petite pause musicale avec une chanteuse cubaine qui s'appelle Omara Cuando. Et donc, elle avait collaboré avec le Buena Vista Social Club, dont vous avez sans doute entendu parler. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une femme qu'elle a été moins médiatisée. En tout cas, c'est très chouette ce qu'elle fait aussi.
Lo sé, yo también te he querido, me olvidaste después, pero yo no he podido a sufrir por tu amor, me condenó el destino, ¿qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder. Contigo, ¿qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. Tantos amores buenos que con fe me adoraron, yo les negué el cariño que inocente. Pero fuiste tan cruel que jugaste conmigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo.
Vous êtes toujours sur Dégenré, le 97 FM. Et du coup, on continue un peu notre liste d'infos. Et il faut bien le dire, quand on a cherché des infos, on trouvait quand même plutôt que des trucs assez négatifs, que ce soit sur la situation des femmes ou des trans, des PD, des Gwyn, on n'avait pas des super infos fantastiques. Mais c'est pour ça aussi qu'on a voulu alterner dans cette émission avec un peu des initiatives, des festivals qui sont chouettes et qui sont porteurs de résistance et de trucs plus positifs, parce que c'est vrai que nos infos...
Parce que c'est le contexte, on va dire, social, tout ça, n'est pas très réjouissant.
Un peu que à des trucs de répression ou d'agression. Mmh. Donc, Là, en fait, on voulait vous parler justement d'une agression lesbophobe qui a eu lieu à Strasbourg en septembre. Et ben pour le faire, en fait, on va vous lire le communiqué du collectif Tapage, donc un collectif transpédéguine à Strasbourg, parce que voilà, le communiqué explique bien la situation.
Donc ce communiqué s'appelle « Nous ne nous laisserons pas faire ». Jeudi 14 septembre, à Strasbourg, à un arrêt de tram, un couple de lesbiennes est violemment et sans la moindre raison pris à partie. Salguine, physiquement frappée par deux jeunes sous le regard bovin de nombreuses personnes qui n'interviendront pas. Le procès en comparution immédiate a eu lieu aujourd'hui, ce lundi 18 septembre. L'un des agresseurs a été condamné à 4 mois, dont un ferme, l'autre à 3 mois avec sursis. Le motif d'homophobie n'a pas été retenu par le tribunal, malgré le rappel fait par l'une des deux victimes durant le procès.
En sortant du tribunal, dans la rue, S est menacée par des amis des deux jeunes condamnés. On va te démonter. Des militantes de Tapage et d'autres associations LGBT et féministes de Strasbourg, qui accompagnaient et soutenaient S, sont insultées. Sale travlo, sale pédé, sale poufias.
Homophobie quotidienne, presque ordinaire, à lire la liste effarante des violences perpétrées à l'encontre de personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres ces derniers mois.
Cette haine nous rappelle combien notre droit à l'existence est précaire, soumis au bon vouloir de quelques brutes. Cette haine trouve sa légitimité tous les jours dans la loi même. Elle signifie en droit et en fait notre infériorité, nous sommes des sous-citoyennes.
Cette haine est relayée dès lors qu'il est établi que nous ne pouvons avoir les mêmes droits qu'une personne hétérosexuelle. Cette haine est encouragée jusqu'à l'Assemblée nationale. Nous sommes, pour certains députés, par exemple Christian Van Est de l'UMP, une menace pour l'humanité.
Cette haine est tolérée. Au mieux, elle suscite quelques trémolos devant les caméras, puis plus rien. Cette haine se nourrit de l'absence de toute prévention d'envergure à destination de la jeunesse. De toute prévention tout court, d'ailleurs.
Un bon PD, une bonne gouine, un ou une bonne trans, est un PD, une gouine, un ou une trans, à terre. Si possible, invisible et résigné.
Transpédéguine de Strasbourg, nous adressons toute notre solidarité aux deux victimes. Transpédéguine de Strasbourg, nous adressons tout notre mépris à celles et ceux qui n'ont pas réagi, ont laissé faire.
Transpédéguine en colère de Strasbourg, nous sommes persuadés qu'il n'y a là rien d'inéluctable, mais que changer la situation implique notre mobilisation, une mobilisation déterminée qui ne se satisfait pas de proclamations compatissantes. Une mobilisation pour exiger de l'État notre égalité.
Nous appelons toutes les personnes, gays, lesbiennes, bi, trans, féministes, tous les soutiens, à se rassembler le samedi 14 octobre à 11h place Kléber.
Ne pas se rassembler, c'est tolérer la solitude de trop nombreuses personnes, femmes, gays, lesbiennes, bi et trans, face à leur oppression. Ne rien dire, c'est accepter. Et par la force des choses, encourager nos agresseurs. Et amnistier l'État.
Notre droit à vivre n'est pas négociable. Pour cela, nous exigeons de l'État une vraie politique de prévention du sexisme, de l'homophobie, de la lesbophobie, de la biphobie et de la transphobie. Et l'égalité des droits dans les faits et dans la loi. Voilà, donc c'est un communiqué donc, qui est un appel à manifestation donc, pour samedi prochain à Strasbourg, qui est signé aussi par différentes orgas. Et si vous voulez, ben, par exemple, envoyer aussi des messages de soutien ou avoir le texte, il est disponible en tapant « Tapage 67 » sur Internet.
D'accord, et donc encore une autre info qui est là, plus une initiative justement.
Eh bien oui, c'est même une réponse donc par rapport ben, à toutes, du coup les violences et discriminations, entre autres, à l'égard des personnes transsexuelles et transgenres. Donc il s'agit de la manif de l'existence qui a eu lieu donc à Paris samedi dernier, donc le 7 octobre, et qui était la 10e marche cette année. Donc voilà, c'est une action qui existe depuis 10 ans. Et donc, pour reprendre un peu les déclarations des organisateurs et organisatrices, qui étaient assez axées pour le truc officiel sur quel candidat pour les trans. Mais bon, de toute façon, c'est un peu le truc actuel, je pense, où toutes... les associations, les revendications, mouvements, ouais. Du coup, en général, vont là-dedans et où, quelque part, je peux, clairement, voir un intérêt d'interpeller les politiques sur leur inaction.
Leur positionnement.
Mais des fois, ça tombe un peu sur quel candidat. Par exemple, je pensais un peu aux revendications lesbiennes, gays, trans, tout ça, sur quel candidat va prendre alors que...
Va nous représenter pour des élections, enfin, oui.
Etc. Et moi, bon, je ne pense pas être représentée de cette manière-là. Mm-hmm. Bref, du coup, ils font donc au niveau de l'organisation le constat que la situation des trans, elle n'a pas évolué depuis 10 ans de lutte et que les problèmes des personnes, elles ne sont toujours pas pris en compte. Et donc parmi les revendications, il y avait la déclassification immédiate de la transsexualité des maladies mentales, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, c'est encore classé comme une maladie mentale, et que il y a, je sais plus exactement combien de temps, mais peut-être 20 ans. Bon, en fait, c'est imprécis. Par exemple, l'homosexualité était aussi encore classée...
Oui, c'était jusqu'à la fin des années 70.
Oui, je crois, fin 70. Parmi les maladies mentales, donc le transsexualisme l'est encore. Le libre choix de nos médecins dans le cadre d'un protocole de soins individuel est respectueux de l'identité de la personne et de son libre arbitre. Parce qu'il faut savoir aussi que... actuellement, par exemple, en France, il n'y a que 700 personnes qui sont reconnues comme trans par le corps médical, parce que c'est que les personnes qui sont passées par les protocoles officiels. Donc il y a des protocoles de médecins qui s'auto-proclament officiels, donc avec des psys, des chirurgiens, etc. Et les personnes qui ne veulent pas passer par là, ou par exemple qui... ne veulent pas d'un suivi psy ou qui ne veulent pas d'opération de réassignement sexuel ne sont pas prises en compte. Donc toujours dans les revendications, la prise en charge par la sécurité sociale des opérations et soins divers dans et hors de la communauté européenne. Une adaptation des dispositifs juridiques et administratifs dans la période transitoire et le changement immédiat d'état civil avec ou sans réassignation génitale. Donc voilà, c'est le fait de pouvoir avoir l'état civil qu'on veut sans qu'il y ait besoin de justifier d'une opération. La régularisation des personnes trans étrangères menacées dans leur pays. Donc voilà, il y avait aussi ACT UP qui, dans leur ACT UP, Association de lutte contre le sida, qui dénonçait aussi dans leur communiqué... l'absence de données sur le VIH-SIDA chez les personnes trans parce qu'il n'y a pas d'enquête épidémiologique qui sont faites.
Parce que c'est des populations qui n'intéressent pas, en fait. Donc,
Oui, voilà, c'est ça. Et de la même façon aussi qu'il n'y a pas de campagne de sensibilisation directement en direction des personnes trans qui sont faites. Ou alors que, par exemple, en lien avec le travail du sexe. Mmh. Et donc voilà, ils dénoncent aussi cela et demandent la réalisation d'études. Et aussi la réalisation d'études sur les interactions entre les prises d'hormones et la prise d'antirétroviraux, donc, qui sont les médicaments actuels, traitements pour, pour les personnes atteintes du sida, et où clairement on sait que peut y avoir des interactions, mais c'est pareil, vu que ça intéresse pas, il n'y a pas du tout d'argent qui est mis dans la recherche pour savoir les dangers en fait potentiels d'interaction entre hormones et ces médicaments. Et voilà, et sinon ouais, ça reprenait les autres revendications. Et
voilà pour nos informations diverses. Donc on espère quand même que ça vous a pas trop déprimé. Et juste après une pause musicale, on reprendra des initiatives donc de cet été qui apparemment ont été vachement intéressantes.
On vient d'écouter sur Dégenré un morceau de Tribate, un groupe Gwyn Trans américain. Donc le morceau qui est assez drôle si vous comprenez l'anglais, mais c'est pareil si vous voulez, vous pouvez je pense trouver les paroles sur internet. S'appelle Wrong Bathroom, ce qui veut dire en gros les mauvaises toilettes. Et ça parle du fait quand justement on ne peut pas, on ne rentre pas, on ne veut pas rentrer dans la catégorie homme ou femme de toutes les prises de tête aux chiottes des personnes qui vous embrouillent sur mais comment vous êtes dans les toilettes des femmes, n'êtes-vous pas un homme ou vice versa. Et donc voilà, c'est toujours ce même truc de devoir rentrer dans deux catégories et sinon il n'est censé rien exister entre les deux. Et donc voilà, c'est un texte assez drôle de, et un peu en colère de revendications transgenres, donc du groupe Tribate.
Alors, donc, on voulait vous parler de rencontres qui ont eu lieu au mois d'août jusqu'à début septembre, qui étaient des rencontres de l'AMP au niveau, on va dire, plus européen. Donc, l'AMP, en fait, c'est l'Action mondiale des peuples. Et en fait, c'est des collectifs, alors de plein de formes différentes, hein, que ce soit, ça peut être juste des collectifs, des associations, des syndicats, etc., du monde entier, qui sont retrouvés en fait sur des revendications anticapitalistes à la base. Hein. Après, ça a évolué aussi vers des revendications antisexistes. Qui dénonce tous les systèmes de domination, etc. Et sur la base, en fait, d'un fonctionnement, on pourrait appeler horizontal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas une direction centrale de l'AMP qui dirigerait les choses et quoi. Donc, en fait, tous ces collectifs se rassemblent pour mettre en place ensemble des campagnes de contestation sur des choses qui jugent graves et aussi échangent des réflexions, tout ça. Et donc ça, il y a eu des rencontres mondiales qui ont eu lieu déjà en Inde, en Bolivie, etc. Et au niveau européen, il y avait eu des rencontres à Leiden, donc en Hollande, il y a, je crois, 3 ou 4 ans. Et donc cette année, c'était en France. Donc il y avait un peu des personnes majoritairement, on va dire, européennes, mais également des personnes d'ailleurs, qui sont rencontrées. D'abord de manière décentralisée, donc dans, je crois, peut-être 6 lieux en France, donc en ville ou à la campagne, donc des lieux plutôt assez autonomes, autogérés, etc. Et ensuite, il y a eu une convergence pour des rencontres plus qui englobaient plus tout le monde et qui chargeaient un petit peu de faire le point à Dijon pendant encore quelques jours.
Voilà, donc nous, on voulait plus vous parler des rencontres qui ont eu lieu à Lyon. Donc à Lyon, c'était sur une dizaine de jours et il y avait un croisement, on va dire, de 3 thématiques qui étaient les questions de politique sécuritaire, de société de contrôle et aussi de nouvelles technologies, donc biométrie, vidéosurveillance, les liens avec la répression policière. Il y avait un deuxième thème qui était sur les politiques migratoires, le racisme et néocolonialisme. Et un troisième qui était un focus plus féministe, queer, donc en lien avec les questions de genre, la domination masculine et l'hétérosexisme. Et moi, par exemple, du coup, qui était à ces rencontres, je trouvais justement que c'était vraiment intéressant ce croisement de trois thématiques. Parce que, du coup, bon, soit il y avait des ateliers plus ou des discussions plus axées sur l'un ou l'autre, mais il y avait quand même pas mal de rapprochements, etc., qui étaient faits. Et ça donnait aussi des rencontres vraiment chouettes, un mélange de personnes intéressants. Et donc, pour vous raconter un peu tout ça, on a refait un montage, donc une émission de radio qui a eu lieu à Dijon, donc pendant la partie centralisée, et où, je crois, 4 personnes qui ont participé donc à ces rencontres à Lyon racontent un peu qu'est-ce qui s'y est déroulé, ce qu'elles en ont retiré d'un point de vue personnel, etc. Donc,
on les écoute.
Écoutez ces témoignages.
Bonjour, je m'appelle Stella, je suis transgenre. J'habite à Lyon pour l'instant. Et voilà, donc j'ai participé à la partie décentralisée de Lyon. Et maintenant, je suis venue seulement pour le week-end. Voilà.
Bonjour, je viens de Strasbourg, je m'appelle Stella et je suis ambisextre en phase d'adaptation et de déviance.
Bonjour, moi c'est Stella et j'habite à Lyon.
Salut, moi c'est Stella et j'habite à Paris.
Bien, merci beaucoup. Et donc, on s'était dit, comme pendant les parties décentralisées, à Lyon, il y a eu un focus féminisme queer,
questions de genre, sexisme, etc. Ça pouvait être intéressant dans une petite partie d'émission de radio, discuter comment ça s'était passé, pourquoi vous aviez eu envie de venir là-bas, et puis qu'est-ce qui s'était fait, et puis on va dire après globalement qu'est-ce qui en est ressorti, et le bilan de tout ça. Donc peut-être pour commencer, je peux vous demander qu'est-ce qui vous a motivé à organiser ou au moins à participer à ce focus à Dijon, à Lyon.
Voilà, en fait, au début, ça me faisait un peu peur, l'idée, c'est là d'organiser quelque chose de global, international et tout. Donc, je ne m'ai pas approché au début et après, je suis allé en réunion et après, je me dis que quand même, j'avais envie de participer dans ces parties décentralisées où il n'y avait pas seulement des sujets sur le féminisme, et sinon d'autres thématiques aussi qui sont moins visibilisées dans les rencontres queer dans lesquelles j'aurais pu participer, comme des corruptions, où il y a des thématiques aussi autres, comme le racisme aussi qui parfois apparaît, mais pas tellement, et aussi pour le fait qu'il y avait aussi des thématiques des politiques de contrôle et des politiques migratoires, que c'était toutes dans le même endroit et que ça me donnait une envie, une recherche de trouver des bases communes féministes pour aussi discuter d'autres thématiques aussi que je trouve intéressantes, mais que parfois, quand je participe dans des mouvements ou dans des actions où je ne me sens pas à l'aise parce que je ne peux pas me définir en tant que transgenre et parce qu'on me met dans son caisse, on me définit en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc j'avais envie que ça soit différent et c'est pour cette raison-là que j'avais envie de participer dans ces parties à Lyon. Et voilà, et à la fin j'ai eu une sensation assez positive de ce qu'on a vécu ensemble. Voilà.
Et moi, je suis allé à Lyon, surtout pour la thématique sur le féminisme, question de genre et hétérosexisme. Et en fait, pour moi, c'était intéressant parce que normalement, moi, j'aborde ces questions-là dans un milieu transpédagogique. Et là, j'avais envie de voir comment elles étaient abordées dans un milieu squat autonome. Et voilà.
Alors moi aussi, je suis venue prioritairement pour les thématiques féministes queer, mais aussi les thématiques sur le racisme. Et ce qui était intéressant, c'était de pouvoir croiser les deux. En fait, j'ai eu une impression de complétude à Lyon parce que pour une fois, je ne suis pas obligée de me dissocier. C'est-à-dire, je peux venir en même temps pour mes convictions antiracistes, pour ce qui m'intéresse dans le féminisme, pour mon plaisir en tant que femme qui aime les femmes, etc. Tout en même temps. Enfin, c'était chouette de pouvoir, avec plein d'autres personnes, de pouvoir échanger sur toutes ces questions en même temps, quoi, sans avoir à mettre dans sa poche à chaque fois une partie de soi-même.
Bah, oui, moi, Stella. C'est très particulier parce que, j'ai vu de la lumière et alors je suis rentrée et j'ai rencontré tout un tas de personnes très sympathiques qui m'ont chaleureusement accueillie et avec qui on a eu des discussions très très intéressantes.
Oui, justement, des thèmes intéressants. On voulait parler un peu des ateliers qui se sont passés. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est vos vécus. Qu'est-ce qui vous a touché? Quel cadre vous avez su mettre en place pour bien vous sentir dans vos ateliers ou... Comment ça s'est passé en général?
Y a eu plein d'ateliers. Il y a eu des ateliers en non-mixité femmes sur des questions de sexualité, de violence. Aussi une espèce de on a fait un peu un bilan de nos milieux militants. Enfin, il y a aussi eu des ateliers plus en mixité sur tout ce qui est hétérosexisme, mononormativité, enfin c'est-à-dire bon la monogamie obligatoire, ces choses-là, et des ateliers aussi qui croisaient la question du racisme et du sexisme. Il y a eu pas mal de films qui ont été projetés, donc tous les cités, c'est compliqué. Pour le croisement des thématiques sexisme et racisme, on a projeté en fait le film qui a été fait à Strasbourg, Un racisme à peine voilé, par des copines et copains de Strasbourg. Et donc là, ça, en fait, ça parle de tout le processus qui consiste à diaboliser les filles qui portent le voile et à montrer aussi comment on en est arrivé à exclure ces personnes de l'école. Voilà, et il y a eu un super débat derrière. Et sinon, il y a eu pas mal de films aussi.
Je sais pas, moi, je voulais parler plutôt de l'ambiance qu'il y avait à Lyon et que moi, j'ai trouvé très, très, très bien parce que, c'était une ambiance beaucoup chaleureuse. Et... voilà, les gens faisaient attention aux autres. Et voilà, ça, c'est pas toujours, ça arrive pas toujours, surtout dans des rencontres où il y a plein de gens. Et voilà, et moi, je suis très enthousiaste pour ça, surtout.
Moi, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir discuter, d'avoir pas mal de discussions où de fait, il y a pas du tout besoin de poser. Des espèces de règles où en fait les gens font attention les uns les autres comme ça et avec une majorité de femmes féministes aussi, et ce qui était assez enthousiasmant. Et notamment ce que j'ai trouvé pas mal par rapport au contexte de Lyon, c'est qu'à un moment donné ces temps-ci, il y a plus vraiment de dynamique collective féministe, et où il y a un début, un redébut depuis le début de cette année là en 2006 avec quelques trucs qui sont faits, mais ça fait plusieurs années où il y a peu de choses, où c'est plutôt des tout petits groupes, des personnes individuellement qui font des choses, et là j'ai l'impression que ça peut permettre une nouvelle aussi, une dynamique se continuer après ces rencontres, et un truc aussi qui nous a fait nous renforcer parce que beaucoup de discussions sur les mêmes thématiques et
dans ce truc là de dynamique locale, je trouve aussi que c'est intéressant et très important pour moi d'avoir un espoir de que cette dynamique elle va pouvoir se développer, donc peut-être déjà. Peut-être il va avoir des projets ou des idées de créer des espaces de collectif, ou peut-être on peut se voir plus souvent des gens qui participent dans des luttes différentes. Et moi, j'aimerais bien qu'on continue à avoir des discussions à niveau local aussi. Après aussi, pour des ateliers, des trucs qui j'avais trouvé intéressants. Donc, il y a plusieurs choses. Un atelier que j'ai sorti très, très... contente, donc c'était l'atelier sur le racisme intériorisé, où pour une fois, bon, au début on avait envisagé un projet un peu ambitieux, que c'était de faire une rencontre de plusieurs jours, un festival, un truc très grand au début à Marseille, et après on s'est dit qu'on allait faire un petit rencontre avant 30 personnes, ça va être en novembre à Lyon, où on va discuter calmement sur notre racisme intériorisé. On va partir dans une base de discussions, d'échanges, et de se prendre à son temps et pas tout de suite envisager des grands projets et de pas y arriver, parce que on a commencé, on a dépassé une phase que pour moi c'est important de se connaître, de se donner le temps, d'essayer d'avoir discussions, d'essayer de poser des bases. Et pour une fois, je trouve que ça change un peu de cette dynamique générale qu'on prend à l'AMP seulement pour le fait que c'est People Global Action, d'envisager des trucs très hauts et de ne pas y arriver jamais, et d'être toujours dans le stress, et d'être toujours dans un truc aussi qui fait partie de cette société, d'activisme et des objectifs qu'on doit accomplir et tout ça, que c'est hyper stressant, ça d'un côté. Et après, un truc aussi que j'ai vécu de manière très positive, c'était des ateliers qu'on a fait, des Dance Contact, que c'est en fait c'est une espèce de danse où tu dois amener ton poids sur le corps de l'autre et te déplacer en même temps. Et c'est un truc assez intéressant, que ça, voilà, moi ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc quoi, c'est ça politique. Donc en fait, on n'a pas eu beaucoup le temps de discuter ça, mais je trouve ça intéressant aussi. C'est comment aussi dans la société en laquelle vit tout l'affectif, et pas seulement l'affectif, sinon le contact physique, que parfois c'est pas un truc que ça soit affectif ou que ça soit sexuel, mais que dans la société dans laquelle vit, on la met dans la caisse de la famille, de les couples hétérosexuels avec des enfants, et c'est là qui s'est centralisé tout notre contact physique avec les autres. Bon, c'est un peu simplifié, mais parfois j'ai raison de ça. Et que le fait de travailler des trucs physiques, corporels avec les autres, ça donne aussi des rapports de confiance avec les autres aussi, qui donnent envie de se sentir à l'aise pour faire aussi des trucs politiques. Je ne sais pas comment dire. Et en fait, on rigolait, on a fait un atelier massage qui a duré longtemps le soir, de 11h du soir jusqu'à 3h le matin. Et moi, je me sentais à la fin, bon, c'est un peu rigolo pour dire comme ça, mais c'est un exemple, de que je me sentais prêt, pour exemple, à prendre des dangers ou à faire des trucs politiques en me disant, voilà, en fait, je sens quelque chose de proche et de commun avec les autres que j'ai besoin dans mon jour à jour et dans les luttes que j'aimerais développer. Et que pour exemple, dans la ville où je vis, j'ai mal à sentir ça. Je sens que les gens, ils sont chacun dans son coin. Que du coup, on se met dans un projet super grand qui s'appelle People Global Action. Et que du coup, au niveau local, bon, qu'on a marre à avoir ce sentiment-là de confiance, de dire voilà, est-ce que je me sens à l'aise et en sécurité pour faire des trucs qui pourraient me mettre en danger. Ben, à ce moment-là, je n'ai pas encore cette sensation, mais j'aimerais qu'on travaille à ça.
En semaine et le dimanche, je traîne en zone franche où l'indigène flanche, où le système se penche sur les peaux blanches. Lèche les plus riches, prêche les bakchiches, le vol, la triche, les vices qui aguichent. Ma vie, c'est le vide, le creux, le bide, les points sordides, les blagues morbides. Le décor du nord et puis des caïds sans remords, aucun et que la fièvre de leur guide. Des frères sous acide, des porcs qui décident d'infliger la mort sans risquer l'homicide. Des tonnes de suicides et moi qui dilapide. Avant d'avoir des rides, ma santé et mon liquide. J'éprouve pour ce bled une rage qui m'obsède quand il projette de mettre en place l'apartheid. Quand ma tête à l'écart et la cause qu'il plaide, quand il nous brime, nous rejette et puis nous dépossède. Et mes tours sont laides, mon parcours est raide. J'suis à bout, abîmé, nomade et sans remède. J'ai de la haine en trop, refuse l'entraide. Je ne demande ni homo, ni offrande, ni aide. La haine me suit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Tous les jours je gère et endure insultes, lutte, chute, échec et injures. Ignore la nature, le sommeil et l'azur, et les couchers de soleil et les bouffées d'air pur. Je ne vois que misère, grisaille et bulldozer. Et pas mal de mes frères moisir sans loisir. Choisir au hasard un boulot à saisir et se retrouver précaire et sans aucun plaisir. Alors moi je sors et m'emmerde à mort. Je vis sans horaire, je dors à l'aurore. J'adore l'univers de la nuit, ses abords et le doux réconfort d'un grand verre d'alcool fort. Les pauvres qui perforent, de riches coffres forts, sans effort se sauvent avant les renforts. La casse et le Delbord, ma race et mon folklore. La crasse qui détériore leur emblème tricolore. Derrière les barrières se trouve ma carrière. Aujourd'hui le brouillard et demain la fourrière. Que veux-tu que j'espère? Faire du son, du sport. La photo est trop foncée sur mon passeport. Je suis aigri, amer, le cœur sous armure. N'aime que la rancœur, le hardcore et le rap dur. Me tape sur les murs, m'en tape du futur. Joue ma vie au baltrap jusqu'à ma sépulture. La haine me suit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Je suis noir, désinvolte et en révolte, et il en résulte mes raisons de prendre le colt. Au vu de ce que je récolte, la crise et la honte, la haine qui me hante, la tension qui monte, le glaive sur ma tête et puis sur ma route. Sirène, descente, doute et déroute, une sale vie d'adulte que seul le sang exalte et qui souvent exulte quand il coule sur l'asphalte. Et ça suinte, la crainte, les pleurs et les plaintes, les ruses et les feintes, les caves que j'emprunte, les pentes que j'arpente, l'ennui et l'attente, l'achat et la vente et les rêves qu'on s'invente, les flics qu'on évite, souvent qu'on évoque. Quand tribunaux et grandes instances nous convoquent. Et je suis ce produit qu'on a réduit à marcher jour et nuit, le fusil dans l'étui. La haine me suit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans l'étui. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans l'étui. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Kazé, en falche, 2005.
Vous êtes toujours sur Dégenré, sur Radio Kaleidoscope, et vous venez d'entendre un morceau de Kazé, Le fusil dans l'étui. Donc Kazé, c'est une rappeuse française qui a vraiment des paroles qui tuent et qui tournent autour de la dénonciation du racisme et du néocolonialisme en France. Donc, à la base, en fait, on voulait passer un autre morceau qui était dans nos histoires et qui parlait très précisément, justement, de ces histoires de colonialisme qui sont complètement non dites, niées, etc., par la France.
Ouais.
Et que, par exemple, on n'apprend jamais à l'école. Mais voilà, on le passera dans une prochaine émission.
Ah, ou pas à la fin de l'émission ?
Oh, je me suis dit, on n'avait qu'à le garder pour l'une prochaine et passer un autre morceau pour la fin.
Bon, d'accord, ce sera suspense alors.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et sinon, avant de reprendre sur d'autres témoignages de l'Action mondiale des peuples à Lyon, je voulais juste faire une mini-pub pour vous dire, si vous n'y avez pas encore été, d'aller voir Indigène au cinéma. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bon, il a quand même été assez médiatisé. Donc, c'est un film qui parle des personnes d'Afrique du Nord qui ont été enrôlées pendant la guerre 39-45 dans l'armée française pour, en gros, aller libérer la France. Donc, des personnes qui habitaient dans les à l'époque colonies françaises. Et donc, ça montre tout le racisme et les discriminations à l'intérieur de l'armée et comment ces personnes n'ont jamais été reconnues, comment la France a refusé ensuite, par exemple, de payer leur retraite en tant qu'anciens combattants.
Ils n'ont jamais réussi à faire reconnaître ça, oui.
Voilà, donc on atterrit ensuite dans des bidonvilles, des foyers Sonacotra, ou alors qui, au retour, bon, pour ceux qui ne sont pas fait massacrer, qui, au retour dans leur pays, ont pu être massacrés aussi, par exemple, pendant les massacres qu'il y a eu à Sétif, directement, je crois, en 45, quand ils ont voulu, justement, vu qu'on parlait à ce moment-là de libérer, eux-mêmes réclamer leur libération et leur indépendance.
Mais ça, il n'en était pas question.
C'est ça, et c'est encore un truc que, évidemment, on ne nous parle jamais. Donc voilà, allez voir ce film, il est vraiment bien.
Et donc, voilà, vous allez voir un peu par rapport à, donc, à ce qui s'est dit à Lyon aussi, que c'était des thématiques, le néocolonialisme qui était présente aussi.
Alors moi, j'ai bien envie de raconter quand même comment on en est arrivé à créer une équipe et à partir sur un projet de travail sur le racisme intériorisé, parce qu'on a eu des déboires avec cette question. En fait, voilà, tout a commencé avec un premier débat sur le racisme qui avait été programmé, et où une des questions de l'atelier, c'était pourquoi y a-t-il si peu de noms blancs dans nos mouvements militants ? Et voilà, il y avait très peu de personnes non blanches qui étaient présentes, mais une, notamment une copine, qui a rigolé et qui a dit « Mais vous feriez bien quand même de vous regarder en face, quoi, et c'est peut-être lié à votre racisme. » Et donc, du coup, voilà, on a programmé un atelier qui s'appelait « Prendre conscience de son racisme intériorisé ». Et le jour où la J de l'atelier, on vient et on n'était que 7, alors que d'habitude, il y avait entre 15 et 20 personnes dans chaque atelier. Alors, on n'était que 7. Il y avait 5 filles, enfin 5 femmes et 2 hommes, si on peut dire comme ça. Sur les 2 hommes, il y en avait un qui était blanc. Et les 5 femmes, il faut quand même signaler qu'il y en a, bon, il y en a 2 qui étaient françaises, quoi. Et bon, on est quand même dans un contexte bien franco-centré, quoi, avec une histoire coloniale. Et donc, en plus, je ne sais pas comment la discussion a fini par déraper, mais on a passé des plombes à batailler sur la question du racisme anti-blanc. Et donc, voilà. Et donc, c'était très mal parti et on était très fâchés. Enfin, on était plusieurs à être très fâchés. On trouvait que ça tournait mal. Donc, on a un peu râlé en disant qu'il y avait un problème dans ce focus anti-racisme. Mais que... Voilà, et du coup, ben, finalement, ça a permis à des gens de rebondir et donc à aboutir à un autre atelier, enfin une autre rencontre a été faite et où on s'est dit maintenant on y va franchement, on organise quelque chose. Il y a même eu déjà tout de suite sur la fin de la session de Lyon, 2 groupes de discussion en non-mixité, enfin des non-mixités donc liées aux questions de racisme. Donc il y avait un groupe non mixte personnes cibles du racisme et un groupe non mixte personnes identifiées blanches. Et c'était assez génial parce que le groupe non mixte personnes cibles du racisme, ils avaient déjà passé 5 heures de travail avec, donc tous ensemble avec nous, il y avait 5 heures de réunion. Puis ils ont fait leur groupe non mixte, ils ont encore discuté, je crois, pendant 4-5 heures et on les a vus à un moment donné pendant une pause et ils étaient vraiment super enthousiastes. Et ils avaient vraiment la frite, quoi. Et bon, bah, je pense que c'est bien parti, quoi.
Moi, je peux revenir un peu sur les formes des discussions qu'on a eues, bien qu'il y en a eu des très différentes. Mais je peux revenir sur quelques-unes. On a pas mal diffusé de films. Et ce qui faisait que ça faisait... on faisait souvent projection de films suivi de débats, ce qui était assez intéressant. Et on a également, il y avait un espace non mixte femmes, lesbiennes, trans, qui était dans un coin de la friche, qu'on avait fait avec des grands pans de moquette, et qui était tout moquetté à l'intérieur, et qui était assez sympathique. Et c'était pas mal pour faire des discussions en peu de monde et justement en groupe restreint. Et notamment, il y a eu une discussion très intéressante sur le safe sex et les pratiques sexuelles différentes que celles très normées et genrées aussi. Et où nous, on s'est retrouvés entre femmes pour faire circuler un petit sac magique où il y avait... plein d'instruments très très rigolos à l'intérieur et de parler de ces différents objets, de ce qu'ils évoquaient pour nous, de ce qu'ils nous permettaient de faire, etc. Et en tout cas, moi j'en ai un super souvenir et je pense que c'est lié à la forme, du fait que c'était en non-mixité, qu'on était peu, au fait de l'endroit où on était. Et voilà. Et ça permettait d'approfondir des rencontres aussi. Parce que c'est pas pareil qu'une discussion, on est 30 avec un grand tour de parole qui n'en finit jamais. Voilà.
Bah, moi, je peux parler. C'est vrai que faut reconnaître que les ateliers qu'on a fait en non-mixité, en fait, on arrivait à aller plus loin. Alors, je sais pas si c'est parce que c'était plus intime, on était moins nombreuses et du coup, dans le temps imparti, on arrivait à pas mal avancer. Et donc, dans cet espace non mixte, il y a aussi un atelier donc sur les violences sexuelles et les viols en milieu militant. Alors, moi qui ne suis pas spécialement uniquement que du milieu anarchiste, ça m'embêtait un peu que ce soit dans nos milieux militants. Et en fait, une fois qu'on a fait le débat, j'ai compris. Et j'étais assez épouvantée de découvrir à quel point il y a du travail à faire. Enfin, autant en fait ici que dehors dans la rue, quoi. Du coup, on a travaillé en petits groupes parce qu'on voulait vraiment répertorier et faire un échange de savoir sur ce qui avait été tenté dans différents lieux suite à des viols ou à des agressions. Enfin, comment on essayait de gérer ça collectivement. Bon, des fois, ce n'était pas essayé du tout. Des fois, il y avait des trucs intéressants. Donc, on a décidé, à l'issue de cet atelier, de créer une équipe aussi de travail pour faire une brochure d'échange de savoir sur ces questions, parce qu'apparemment, ce n'est vraiment pas du luxe. Et finalement, moi, je suis contente, parce que cette brochure, qui s'adresse peut-être à des milieux militants libertaires, anarchistes, elle va aussi être très utile dans d'autres milieux, à mon sens. Donc, voilà.
Bah, un autre sujet, une autre chose que c'était intéressant pour moi de vivre aussi, c'était la non-mixité avec des femmes et trans, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je pense en France, à moi, c'est quelque chose de nouveau, où on se retrouve en non-mixité, mais qui aussi c'est ouvert aux trans. Et en fait, au début, donc, on a eu la réunion du focus féministe et on a soulevé la question de non-mixité et on ne savait pas trop comment l'aborder. Donc, du coup, on avait proposé, il y avait des gens qui proposaient de faire des groupes de travail ou de faire un peu de discussion par rapport à ça. Finalement, on n'a pas fait ça, mais la plupart des ateliers, tous les ateliers, ils ont été définis. Et même les endroits pour dormir et les endroits d'activité, ils ont été définis, ouverts aux femmes, lesbiennes et trans, F2M et M2F. Donc déjà, c'est quelque chose d'une expérience nouvelle, quoi. Même comme ça, je ne m'ai pas senti tout le temps à l'aise. Aussi parce qu'on n'arrive pas trop à développer des trucs de communication ou d'échange où les gens... Il ne sait pas si je suis un garçon ou une fille, alors donc pour exemple, je ne vois pas clair que je propose pour exemple d'aller dormir dans un espace non mixte, même si pour moi c'est clair, et la manière d'aborder ça ou la manière de parler ça. Donc peut-être, je me demandais, il aurait fallu qu'il y ait des moments où on peut discuter ça, comment on se communique par rapport au genre. Je ne sais pas, moi c'est des trucs que je trouverais que ce serait intéressant, mais après, pas tout le monde ils ont envie de les faire ou de prendre le temps de les faire. C'est de ne pas autodéfinir, pas définir les genres de la personne qu'on en face, mais forcément on les définit parce qu'il y a des codes qu'on définit plus ou moins comme des garçons ou des filles. Et donc du coup, c'est quelque chose d'un peu compliqué.
Et moi je me demandais d'ailleurs, le fait qu'il y ait eu donc, ce focus-là et donc on va dire... des échanges particulièrement sur le thème du féminisme ou autre. Est-ce que vous trouvez que ça a changé quelque chose vraiment dans l'ambiance de la conférence à Lyon et dans la vie quotidienne et collective qui s'est créée là-bas?
Oui, moi je pense que tout à fait, ouais. Et on a pu voir la différence, notamment en arrivant à Dijon. Dans le sens où, bien sûr, il y avait toujours des rapports sexistes et il y avait toujours des rapports de domination. Et de toute façon, on pourra jamais les supprimer ou les abolir, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait des attentions portées tout le temps, que ce soit dans les discussions, le fait d'écouter les autres, de ne pas trop se couper la parole, que ce soit dans les temps d'échange pendant les repas, à la cuisine aussi, ça a été assez... Il y a eu différentes personnes qui y sont passées, même. Du moins, je trouve ça assez tourné, que ce soit dans les répartitions des tâches, je pense. Non, je crois que c'est jamais parfait, ce truc-là. Mais ouais, mais dans les, il y avait, on sentait quand même une ambiance assez intéressante. Et on m'a fait aussi un très bon retour sur, du moins un très bon, non, un truc super intéressant de la soirée qui s'était passée le mercredi soir. Où certes il y avait pas mal de mecs qui ont été chiants à certains moments, mais c'était pas toute la soirée, et qu'il y a eu beaucoup de parties où il y avait des groupes de femmes qui dansaient ensemble et qui s'éclataient, quoi. Et donc il y a eu
mais moi quand je suis revenue dans la salle j'étais émerveillée parce qu'il y avait plein de femmes torse nu. Et c'est quand même là où il se passait quand même des choses un peu hors normes, dans le sens, pour une fois, pas aussi straight, c'est que on pouvait se permettre, quoi. C'est vrai, il y avait plein de femmes torse nu et pas trop de mecs pour les faire chier, quoi. Et ça, c'était vraiment chouette.
Donc on termine
bonjour,
sur...
je m'appelle Estella, je suis transgenre. J'habite à Lyon pour l'instant.
Alors non, je crois que voilà, c'est un petit bug d'enregistrement, mais il me semble que c'est terminé sur cette note positive.
Tout à fait. Je crois qu'on était revenu au début.
Ah voilà, bah ouais, ça c'est les ordinateurs qui mettent en boucle. Donc voilà, toutes les meufs torse nu, faisons-nous plaisir. Je crois que c'est la morale
c'est ça,
de l'histoire.
C'était le mot de la fin. Hein. Et on va devoir vous laisser, surtout que du coup les personnes de l'émission qui suit la nôtre arrivent. Donc voilà, on vous laisse avec un morceau de Gwyn & Bee, qui est un groupe toulousain qui est aussi passé à la Ladyfest. Et le morceau s'appelle 50%. Au revoir.
Une vraie boucherie.